Je sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, avec tous ces chocolats, la motivation pour aller faire du sport est en dessous de zéro. Heureusement qu'à la télé, on a trouvé plein d'athlètes qui voulaient bien en faire pour nous.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du meilleur du foot anglais et portugais en exclusivité avec la fibre starter et SFR Sport à 19,99€ par mois. Et pas seulement la première année. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition d'éligibilité valable jusqu'au 8 janvier 2018, réservée aux nouveaux clients. Plus 5€ par mois de location box, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€.
BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com. Comme chaque semaine, on se retrouve avec Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, pour parler de l'actu des marques et des agences, débattre des enjeux du monde de la pub et de la communication et partir à la rencontre des DIRCOM qui comptent. Aujourd'hui, on sera avec Yves-Paul Robert, partenaire et responsable de l'expertise communication de crise chez Havas. Il publie Le Despot Consommateur, c'est aux éditions Plon. Notre face Havas du jour sera consacrée à cette année 2017 sur le plan événementiel et digital. Retour sur cette année donc avec Thierry Reboul, le président de l'agence Ruby Bene, et Anthony Babkin, directeur général adjoint de TBWA Corporate. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Bertrand Huzel, le cofondateur de Welcome to the Jungle. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news de Marie Vallogne.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Pas d'image choc cette fois-ci pour la sécurité routière. Respect SAM, c'est le nom de la nouvelle campagne pour sensibiliser aux dangers de la conduite sous l'emprise de l'alcool. Cette fois-ci, SAM a un visage puisque le film met en scène de jeunes conducteurs en fin de soirée. Un spot moderne et optimiste réalisé par l'agence La Chose.
À toi qui penses d'abord aux autres.
À toi qui les guides dans la nuit.
À toi qui n'abandonne pas.
À toi qui t'es porté volontaire. À toi qui leur dévoue ta soirée.
À toi qui n'es pas prêt de l'oublier.
Des lignes épurées, un cockpit teinté noir, des feux anti-brouillard d'une portée de 10 km. Bref, un design à couper le souffle. Renault Sport réinvente le traîneau du Père Noël, un traîneau futuriste et d'une classe absolue. Pas de rêne pour le conduire, mais une vitesse pouvant atteindre 100 km/h en quelques millièmes de seconde. La campagne est diffusée sur les réseaux sociaux et est orchestrée par We Are Social. Un cadeau de Noël qu'on échange discrètement avec celui d'à côté, un paquet qu'on cache sous le canapé. Ces situations gênantes, PayPal s'en amuse dans sa dernière publicité. PayPal qui s'installe ici comme la solution pour envoyer gratuitement ses achats s'ils ne conviennent pas. La campagne est signée par l'agence Buzzman.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Yves-Paul Robert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes partenaire et responsable de l'expertise communication de crise chez Havas. Vous, vous êtes l'auteur du Despot Consommateur. C'est publié chez Plon. C'est quoi un Despot Consommateur?
Le Despot Consommateur, on est un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire. Je vous accuse pas d'être Despot Consommateur. Moi, je me sens un petit peu Despot Consommateur. En réalité, c'est de dire aujourd'hui, entre mon smartphone et dans ma poche et les réseaux sociaux que j'utilise de manière quotidienne, voire abusive, je crois que ça transforme mes expériences de consommation, ça transforme mes expériences dans le rapport aux gens, ça transforme des expériences dans mon rapport aux marques, aux entreprises, à mon employeur et même à la démocratie si on en juge la dernière résultat de l'élection présidentielle.
Vous parlez pas mal de politique, en fait. Moi, j'ai remarqué dans le bouquin, il y a le consommateur, mais il y a vachement l'électeur, quand même, non ?
Moi, ce que je constate sur l'élection du dernier président de la République, c'est qu'il a réussi un formidable coup en faisant en sorte que la génération politique précédente soit un petit peu swipée, comme on dit dans l'utilisation des applications. C'est-à-dire que, voilà, j'ai été balayé d'un revers de pouce. C'est un geste, on n'y pense pas, mais qu'on fait tous des dizaines de fois par jour sur nos smartphones. Et je pense que l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui est en train de rejaillir sur tout un tas de pans économiques de notre pays. Je prends trois exemples très simples sur les caractéristiques du despote consommateur, selon moi. D'abord, c'est une forme d'impatience généralisée, puisque tout est à l'échelle de la seconde sur votre.
Ouais, il nous faut tout de suite maintenant.
Ma réservation se fait en quelques secondes. Si le site ne charge pas, je ferme la fenêtre et je vais sur le site concurrent. Ouais. Donc, la question de l'impatience est au cœur de la consommation. La deuxième chose, c'est le sujet de l'infidélité. C'est-à-dire que les marques ont créé un rapport très émotionnel avec les clients, avec le consommateur. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de changer mon opérateur bancaire en quelques clics, ma marque de voiture que j'avais inconsciemment hérité de mon père. Aujourd'hui, je suis incité par les réseaux sociaux toutes les secondes à changer de marque. Donc, la caractéristique de l'impatience puis de l'infidélité sont des choses qui sont très importantes. Il y en a un troisième, et là, je crois que c'est le plus important de tous, c'est l'immodestie. L'immodestie de ce despote consommateur, puisque aujourd'hui, vous prenez n'importe quel jeune qui a entre 15 et 18 ans, il a quelques milliers de followers sur tous ses réseaux sociaux, entre Facebook, Insta, Snapchat, et en réalité, il parle en permanence, il interagit en permanence avec cette communauté, et ça lui donne un pouvoir. Et donc en réalité, aujourd'hui, quand je suis insatisfait de mon expérience de consommation, je le partage immédiatement, non pas juste avec mon voisin de classe ou dans la cour de récré à quelques dizaines de personnes, je le partage avec mes milliers de followers de manière totalement instantanée, et ça crée, je crois, un sentiment un petit peu de puissance en disant je peux parler moi tout seul avec mon téléphone, je suis producteur d'idées à des milliers de personnes et ça crée beaucoup d'immodestie.
Et du côté des entreprises, vous dites ça va jusqu'à les mettre, vous appelez ça au bord de la crise de nerfs.
Alors, je vous donne un exemple d'une application très réussie qui permet le recrutement de cadres qui s'appelle Qdos. Aujourd'hui, c'est le même principe qu'une célèbre application de rencontre. C'est-à-dire que vous allez choisir vers la droite de répondre à l'annonce ou de ne pas y répondre sur la gauche pour des postes de cadres. C'est-à-dire que le choix d'un travail va être réduit à sa plus simple expérience de consommation sur mon téléphone portable. Donc en réalité, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises ? Ça veut dire que je dois me plier à ces nouveaux codes des réseaux sociaux et du smartphone où j'ai tout le monde à portée de main dans ma poche. Donc en réalité, c'est un vrai défi pour les entreprises.
Et à la fois, c'est aussi peut-être un rééquilibrage du bras de fer, non ? Parce que les entreprises, on leur reproche aussi de tout savoir sur leurs consommateurs. Elles ont la data, elles ont la puissance, elles aussi, elles se servent des réseaux sociaux. Donc est-ce que finalement, c'est pas le consommateur est despote, mais l'entreprise est pas non plus une pauvre victime qui est totalement à la merci du consommateur, non ?
Je crois d'abord que l'entreprise, en faisant de la communication corporate depuis des années, en attisant le désir du consommateur, tombe un petit peu dans le piège qu'elle a tendu, puisque en réalité, je prends l'exemple du corporate, de la communication sur les valeurs de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on remarque dans les études, c'est que dans mes intentions d'acte d'achat, ce qui va favoriser, influencer ma décision, aujourd'hui, c'est pas juste l'aspect fonctionnel, il y a de plus en plus sur ce que je pense de l'entreprise et ce que je pense du comportement du chef d'entreprise. Je vous fais un raccourci très simple. Le chef d'entreprise est parti avec un golden, avec un parachute doré. Okay. L'entreprise ne paye pas ses impôts dans l'Union européenne. Mm-hmm. Je peux la boycotter. Donc en réalité, aujourd'hui, on a dans l'influence de la décision d'acte d'achat une palette bien plus large que l'entreprise a contribué à créer, puisque c'est l'entreprise qui s'est mise à faire de la communication corporate et à professer ses valeurs. Et donc en réalité, après, à partir du moment où elle les a professées, elle va être jugée par le consommateur, des spots donc sur ces aspects-là.
Et sur les achats, vous militez fortement pour ce que vous appelez le French Click.
Alors, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'en réalité, on est en train de vivre une bataille tectonique. Il y a des plaques tectoniques commerciales qui sont en train de se mettre en place. Il y a la plaque américaine avec les GAFA, bien évidemment. Il y a une autre grosse plaque qui est en train d'arriver, qu'on voit moins pour l'instant, mais qui va venir de manière certaine. Ouais. C'est l'Asie, c'est la Chine, c'est Alibaba, hein, c'est des exemples d'e-commerce qui sont absolument flagrants. Au milieu, c'est un sujet un petit peu politique. Il n'y a pas de cohérence en France et même en Europe sur la constitution de cette fameuse plaque tectonique. Et donc, en réalité, je crois que il faut que les entreprises mènent une bataille culturelle pour dire aux consommateurs, attention, il y a encore un nouveau critère d'influence de l'acte d'achat qui n'est plus uniquement où a été produit le bien que je vais acheter. C'est le made in France. C'est pas juste cette voiture a été faite dans une usine française. C'est de l'agriculture française. C'est de dire qui est l'intermédiaire qui me vend ce produit. Et donc, en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a absolument aucune conscience de la nationalité des intermédiaires. C'est-à-dire que vous dites les GAFA, c'est américain, mais on perd toute la conscience. C'est-à-dire que vous avez des gens, et on le veut questionner autour de vous, il y a des gens qui sont des fervents défenseurs du Made in France, qui font très attention dans l'acte d'achat de la provenance du produit, et qui vont acheter ça sur des plateformes américaines, ou chinoises, ou autres, ne voyant pas que, en réalité, une grosse partie de la marge qui est faite sur les produits, aujourd'hui, elle va chez l'intermédiaire. Et donc, en réalité, quand je dis je fais du Made in France, mais j'achète sur une plateforme américaine, en réalité, c'est assez introduit. Donc, moi, je pense que les entreprises doivent aujourd'hui mener une bataille culturelle
comme
qui doit
bon
permettre.
Comme le Bon Coin, c'est le Bon Coin. L'exemple, c'est le Bon Coin, quand même.
L'exemple, c'est le Bon Coin.
Qui a battu eBay sur son propre
terrain. Exactement. Ou qui se bat sur la location de vacances contre une grande plateforme américaine qui paye pas énormément d'impôts. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'intention d'acte d'achat, la notion de la responsabilité numérique, quelque part, elle doit être faite, c'est un peu je parle un peu des communicants aussi dans ce livre, c'est un peu la bataille des communicants qui doivent être des lanceurs de combats sociétaux auprès des chefs d'entreprise pour leur dire, faisons des batailles culturelles pour que l'opinion publique fasse pression sur la réglementation politique. Aujourd'hui, on est encore aux phases de balbutiement pour avoir une cohérence fiscale au niveau européen sur la taxation des grandes entreprises américaines. Donc en réalité, tant qu'il n'y aura pas de pression des opinions publiques, la politique n'arrivera pas à imposer cela. C'est un peu ça que je veux dire avec le French Kick.
Et ben justement, puisqu'on parlait du Bon Coin, c'est Antoine Joutot, le patron du Bon Coin, qui préface le despote consommateur chez Plomb. Merci beaucoup Yves-Paul Robert.
Merci à vous.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
On retrouve notre chroniqueur masqué, Joe Lapompe, Frédéric.
Eh oui, Joe Lapompe, toujours en vert pour parler d'un bonhomme en rouge, puisqu'on parle, je crois, cette semaine du Père Noël.
Eh oui, j'ai été, pour l'occasion, fouillé dans mes archives et je me suis demandé quelle est l'idée de Noël qui, en publicité print, est la plus galvaudée, la plus grillée, celle qui a été faite le plus grand nombre de fois. Ouais. Et finalement, je suis tombé sur cette image du Père Noël rasé de près, qui a été fait par à peu près toutes les marques de rasoirs et de mousse à raser. Donc ça a été fait, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques.
Allez-y.
Par Menen, par Gillette, ça a été fait par Philichet. Ça a été fait en France, en Allemagne, au Brésil, en Turquie, voilà. Donc,
Mais là, ils sont conscients que c'est de la pompe quand même, vu le nombre de fois où ça a été fait.
Je sais pas. En tout cas, moi, je lance un appel et je dis aux créatifs, peut-être, il serait temps d'arrêter avec cette idée. Voilà, on en a ras-le-bol, ras-la-soucoupe.
Autre idée galvaudée, c'est le pull double qui était déjà le meilleur cadeau en 2014 et qui revient en force.
Oui, alors ce qui est marrant, c'est que cette année, ça a été présenté quand même encore comme une grande nouveauté. Il y a une marque hollandaise de prêt-à-porter qui a conçu un pull spécial Noël à double encolure, en fait, qui permet aux gens de fêter Noël de manière rapprochée et chaleureuse avec un double pull. J'espère qu'on le voit sur les images.
Oui.
Et malheureusement, ça, c'était une idée qui avait déjà été faite il y a 3 ans aux États-Unis, également par une marque de grande distribution qui s'était associée avec une marque de prêt-à-porter et qui avait fait exactement la même chose.
Merci Joe Lapompe, on vous retrouve évidemment sur votre blog et tous les mois dans l'excellent magazine CB News.
BFM Business, Hebdo.com, le face-à-face.
Le face-à-face du jour autour de l'événementiel et du digital. Pour en parler avec nous, Thierry Reboul, président de l'agence Oubi Bene. Bonjour.
Bonjour.
Et Anthony Babkin, directeur général adjoint de TBWA Corporate.
Bonjour.
Bonjour. Thierry Reboul, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette année sur le plan événementiel?
Écoutez, c'est pas trop à moi de le dire, mais je pense qu'il y a effectivement 2 ou 3 images. Alors moi, je suis sur un créneau un petit peu particulier, puisque moi, je suis sur le grand public, donc j'aurais du mal à vous dire ce qu'on a retenu sur la convention.
Oui, mais sur votre.
Mais sur le mien, effectivement, les Jeux Olympiques et toute la politique, bien évidemment, événementielle autour des Jeux. Cette fameuse piste d'athlétisme sur la Seine, et puis la tyrolienne peut-être sur la Tour Eiffel qui montrait la manière de pouvoir exploiter encore les monuments de cette ville et d'en faire des choses assez vivantes.
Et ça, c'est pas ces deux grands événements particulièrement spectaculaires. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ça a été une bonne ou une mauvaise année au-delà de, parce qu'il y a quand même eu une période présidentielle qui a peut-être un peu gelé le paysage, non?
Alors, il y a plein de raisons pour dire que effectivement, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. On va vous parler de la présidentielle. On va peut-être vous parler aussi, bien évidemment, du contexte. Je crois qu'on a été capable de démontrer que, au-delà du contexte, il y avait, quand on s'y prenait avec des idées un peu différentes, il y avait une envie, y compris des autorités.
Le contexte, c'est le danger,
Bien sûr, ça a été tout le contexte sécuritaire qui au départ, semble rendre impossible d'aller sur la voie publique, notamment. Mais non, je crois que tout le monde était conscient qu'il fallait continuer encore plus, peut-être même, à animer la ville, et qu'il fallait trouver des idées différentes, pour ça.
Anthony Babkin, vous qui êtes plutôt spécialiste du digital, justement, c'est encore intéressant d'avoir ce type d'événement où, au moment où les marques finalement peuvent avoir une communication instantanée avec leurs utilisateurs sur les réseaux sociaux.
Alors moi je pense que c'est essentiel, et puis avec Thierry là on s'entend, c'est que on a l'habitude de dire, et surtout Thierry, que l'événement est un média, et pour aller plus loin, moi je dis souvent l'événement est un média social, donc par définition dans l'ADN de l'événement, c'est comment finalement l'événement va aussi permettre d'être une caisse de résonance sur les réseaux sociaux. Donc le live est parmi cette année et puis les années qui vont venir une espèce de tendance un peu clé pour faire en sorte que l'événement se diffuse, rayonne, soit pensé aussi pour des canaux numériques. Donc évidemment, d'un côté, il y a la tech avec tout ce qui va permettre d'amplifier l'expérience, la réalité virtuelle. Il y avait un blog là qui s'appelle Event Drive qui listait les 8 tendances tech sur le sujet. Je trouvais ça intéressant sur la réalité virtuelle, l'enjeu de l'intelligence artificielle, tous les sujets qui vont amplifier l'expérience, et de l'autre côté, les médias sociaux qui vont être cette caisse de résonance, parce que peut-être qu'il y a plein de gens qui ont voulu vivre l'expérience que Thierry a créée avec ses équipes, mais qui n'ont pas pu se déplacer, mais qui l'ont peut-être vécu de manière extrêmement directe, live, immersive, grâce aux réseaux sociaux.
Et c'est une façon aussi, les réseaux sociaux, par exemple, d'individualiser aussi l'expérience de l'événementiel. Je pense, par exemple, à votre tyrolienne là, sur la Tour Eiffel, où vous aviez une vidéo pour chaque personne qui testait la tyrolienne.
Oui, et puis c'est, vous savez, les réseaux sociaux, pour nous, c'est une caisse de résonance. Hein. Avant, on marchait, on était un peu unijambistes. Hein. Il y avait juste les médias qui pouvaient parler de nous, qui étaient chose énorme, mais qui est par définition relativement incertaine. Ouais. Les réseaux nous ont permis de marcher sur deux jambes. Donc ça a été une caisse de résonance formidable. Donc forcément aujourd'hui, dans la dynamique, c'est le cas de la tyrolienne, quand on pouvait se filmer sa descente, on essaie de leur donner des outils, tout simplement pour qu'ils puissent les poster et en faire un maximum de bruit personnel.
Mais malgré tout, est-ce que c'est pas un peu justement les lives, que ce soit Facebook ou Twitter, peu importe la marque, il n'y a pas encore un peu un décalage entre descendre de la Tour Eiffel en tyrolienne et regarder sur son téléphone ou sur son PC un petit truc un peu, il n'y a pas un pas à faire là pour donner le truc un peu plus immersif, un peu plus de peps, quoi.
Alors pour être très franc, j'attendais pas meilleure question parce que en fait ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que le live ça se prépare, et de plus en plus le live très spontané qu'on a en prenant notre smartphone, en disant tiens j'allume Periscope ou Facebook Live, est en voie de disparition, malgré les épisodes qu'on a vus un peu tragiques de quelqu'un qui se suicide en direct, etc. Là on est dans la marque qui a envie de raconter une histoire, qui a envie de la raconter de manière extrêmement immersive. Elle va pouvoir le faire de manière beaucoup plus forte avec tous les outils tech qui vont voir le jour. Mais en plus de ça, moi je pense à deux lives qui ont été très très intéressants cette année. C'était le live SNCF, le lancement de la ligne TGV L'Océane, où en fait l'événement c'était un live. Donc pendant une heure, on vous raconte ce train. Il y a certains advocates, donc des conducteurs de train qui sont sur différentes villes, qui vont vous raconter cette histoire. Et un live nous qu'on a fait pour EDF sur les Electric Days, qui est le moment un peu plus B2B. Et en fait, on a mis en scène l'ensemble de cet événement sur les réseaux sociaux avec les patrons du groupe, différents advocates aussi, des leaders d'opinion sur l'innovation. Donc, comment on rend immersif et qu'en fait, derrière son écran, on a l'impression d'y être. Et c'est ça qui va être clé pour nous, c'est comment on raconte l'histoire, même si on est derrière son écran.
Et la VR et tous ces trucs-là, ça peut aider aussi de vivre.
Oui. Après, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement, il y a peut-être un petit déficit de modernité sur la forme des réseaux.
C'est ça.
C'est assez classique. classique quand même. Donc c'est sans doute une piste à explorer pour le futur, parce que ça a beau être le média de la modernité, il est assez contraint, quoi.
Ouais. Ouais.
Est-ce que l'événementiel, ça doit forcément être spectaculaire, parce que ce que disait Anthony Balkin tout à l'heure, pas forcément.
Alors après, il y a des goûts personnels qui rentrent en jeu. Le mien, vers le spectaculaire. Mais en l'occurrence, quand c'est spectaculaire, on en parlait tout à l'heure. Quand c'est spectaculaire, bah ça fait un peu le boulot tout seul, si vous voulez.
Ouais.
C'est plus facile de faire une caisse de résonance sur quelque chose de spectaculaire. Bon après, on peut faire d'autres choses, bien évidemment. On n'est pas condamné au spectaculaire, même si c'est plutôt mon créneau, moi, personnellement.
Merci beaucoup Thierry Reboul. Je rappelle que vous êtes le président de l'agence Ubi Bene et Anthony Babkin, directeur général adjoint de TBWA. Corporate.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Et pour finir, nous sommes avec Bertrand Uzel, cofondateur de Welcome to the Jungle. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Alors rappelez-nous d'abord ce que c'est que Welcome to the Jungle.
Welcome to the Jungle, c'est un média dédié à l'emploi. Pour les 20-35 ans, notre objectif, il est très clair, c'est d'aider les jeunes candidats, souvent les jeunes diplômés, à trouver une entreprise qui leur correspond. Alors notre enjeu pour nous, il est de créer le plus de contenu possible. Ce que j'entends par contenu, évidemment, c'est de créer le maximum d'articles, de vidéos. On crée même des contenus un peu originaux, tels que des documentaires, des séries un peu exclusives sur des métiers, sur des secteurs, pour que les candidats puissent appréhender et s'orienter dans une jungle qui est de temps en temps un peu hostile.
Comment est-ce que vous avez pensé justement votre média, votre site internet à l'origine?
En fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les jeunes candidats aujourd'hui cherchent une chose très claire, qui est de plus forcément un intitulé de poste, mais bien plus que ça.
Ouais, ça c'est sûr.
Ils recherchent aussi une équipe, des équipes, une ambiance, une culture d'entreprise, des valeurs qui leur sont propres. Et justement, c'est un peu l'idée, justement, dans la promesse qu'on leur donne, c'est justement de trouver une entreprise qui leur correspondrait vraiment, et justement de travailler cette marque employeur au travers justement, de pouvoir identifier une telle ou telle entreprise parmi une multitude évidemment de boîtes, c'est-à-dire des startups, des PME ou des grands groupes. D'ailleurs, je m'arrête un peu aussi sur le grand groupe. Il y a un vrai sujet de la marque employeur aussi pour, par exemple, pour les Accor Hotel, pour les
Scale Hôtellerie. Les conseils.
Qui sont pas forcément identifiés. Ouais. Ou mal identifiés. Le cas d'Accor Hôtel, c'est très simple. On en parlait encore il y a deux jours. Et on nous disait, nous, on a un vrai sujet. C'est qu'on est identifié très bien sur l'hôtellerie, sur la restauration, mais pas du tout sur le digital. Alors, c'est notre enjeu numéro un. En face de nous, il y a du Airbnb et un nombre de sites concurrents qui s'est visé. Donc, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que les candidats puissent aussi être identifiés auprès des entreprises, et puis de pouvoir leur donner un maximum de contenu qualitatif. Et ça, c'est vraiment l'exigence qu'on essaye de donner à nos équipes pour notre média, parce que voilà, c'est pas que faire du contenu pour du contenu. Nous, l'idée, on n'est pas à la pêche au like sur Facebook. On est aussi sur la pêche au partage. Et c'est ça pour nous qui est important, c'est faire du contenu fort et qui pourrait être évidemment partager.
Mais c'est vrai que travailler la marque employeur aujourd'hui, c'est un moyen très fort finalement pour les marques de communiquer aussi et de constituer finalement leurs équipes de demain, quoi.
Tout à fait. Et puis parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les candidats ne rejoignent plus forcément un produit ni une marque.
Ils cherchent quoi? Une ambiance
Ils cherchent une ambiance, un environnement de travail. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on essaye au mieux, encore une fois, de présenter ce Welcome to the Jungle, des entreprises avec une expérience vraiment immersive. Voilà, pour que le candidat puisse...
Oui, j'ai vu, vous avez des visites de locaux.
Exactement. C'est pour ça qu'on envoie nos équipes, qui sont nos propres équipes d'ailleurs. On les envoie avec une charte assez spécifique où on prend des photos de l'environnement de travail, des vidéos, des interviews des collaborateurs, souvent des fondateurs, pour qu'ils expliquent un peu finalement leur vision, ce qu'est vraiment la boîte en question. Et voilà, tout ce qui permet avec des infos clés, voilà, c'est hyper important pour nous aussi d'avoir des infos un peu exclusives, évidemment, de donner un peu de contenu exclusif pour les candidats, pour qu'ils puissent venir balayer assez rapidement l'entreprise et dire est-ce que cette entreprise me correspond ou pas. Et c'est aussi le ou pas qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est pas de rendre les entreprises
plus belles qu'elles le sont.
Exactement. Voilà, exactement, c'est ça.
Merci beaucoup Bertrand Uzel, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. Merci également à Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine sur BFM Business pour un nouveau numéro d'Hebdo.com.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.